Je te l'ai dit pourtant, Poupie. Faut t'asseoir sur une serviette quand tu vas là-bas. Ma première fois à la salle de gym, Mike était venu me parler, en français. Quelques jours plus tard, il m'avait proposé d'emménager chez lui. Il était à un moment de sa vie où il avait besoin de repos. Et je crois que ma présence lui convenait bien. Avant Mike, j'avais remarqué qu'il n'y avait aucune activité dans laquelle j'étais particulièrement habile. Mais ça ne m'avait jamais frappé comme étant inquiétant. C'était dans l'ordre des choses, j'étais habitué. Au bout de 6 mois, le professeur de violon, par exemple, avait dit que je perdais mon temps, le sien, et celui de ma mère, qui attendait dans la voiture. En natation, le moniteur disait que j'avais un bon mouvement. Et puis, un jour, il m'a chronométré. À 12 ans, j'ai fait du théâtre, avec l'amicale des retraités d'Arcachon. La saison d'après, ils m'ont dit que, malheureusement, il n'y aurait pas de rôle d'enfant dans leur prochaine pièce. Mais alors, qui était ce Daniel, 11 ans, au milieu de la scène, sur la photo dans le journal? Le prix de la motivation a été créé spécialement pour moi, à la fin du seul stage de tennis auquel j'ai participé. À la maison, je quittais le salon pendant question pour un champion. Une année, pour la fête des mères, j'ai écrit un poème. En le lisant, ma mère s'est mise à pleurer. J'ai pensé que c'était l'émotion, mais elle ne m'a plus adressé la parole, pendant 6 repas. Je suis arrivé à Prague, 2 jours après que la Vltava eut inondé le centre-ville. Les ponts étaient coupés, on ne pouvait plus passer d'une rive à l'autre. Si je n'avais pas rencontré Mike, j'aurais à peine survécu. J'avais une chambre dans une résidence universitaire, mais elle était déserte car c'était l'été. Même les machines à café étaient vides. Et de toute manière, je n'avais pas de pièces, que des billets. Comme j'étais incapable de me procurer de la nourriture, j'ai dormi 36 heures, jusqu'au lundi matin. Les jours suivants, en attendant que les ponts soient rouverts, j'ai trouvé une épicerie. Mais elle n'était pas en libre service. Il fallait nommer les choses qu'on voulait acheter de l'autre côté du comptoir. J'ai tenu avec des Bounty et du Coca-Cola. Je n'aimais pas le Coca-Cola, mais je ne connaissais pas le tchèque pour eau. Quand j'ai appris ticket de métro, je suis allé faire des courses dans un supermarché et j'ai repris courage. Puis j'ai trouvé un cybercafé. Et j'ai imprimé un répertoire des lieux fréquentés par des expatriés. Et la liste incluait la salle de gym. J'ai suivi Mike comme on s'accroche à une bouée. Il me disait quels habits porter, pour quelle occasion. Il me guidait par téléphone jusqu'au point de rendez-vous. Et je riais en basculant légèrement la tête en arrière. Quand, vraisemblablement, il avait fait un jeu de mots, en latin. Un jour, Mike m'a tendu une enveloppe. En me disant qu'il avait un cadeau pour moi. J'ai pensé à un week-end à Berlin, mais en fait, c'était juste une carte postale. On y voyait une jeune femme élégante, manifestement oisive, qui portait un chandail pastel et une jupe à froufrou. Elle était dessinée dans un style rétro, un peu comme une réclame pour une machine à coudre dans les années 50. Ses cheveux étaient longs et soyeux, son coude était posé sur un guéridon à côté de son fauteuil. Elle tenait son visage dans sa main et ses yeux pointaient vers ses sourcils. Ce qui suggérait qu'elle venait d'avoir une bonne idée. Elle était pensive, mais il y avait aussi de la détermination dans son regard. « Plus je réfléchis, » disait une bulle au-dessus de sa tête, « et plus je me dis qu'il faudrait que je devienne vraiment bonne à quelque chose. » Quand j'ai vu la carte, Poupie, j'ai tout de suite pensé à toi. « C'est la première fois, toi, que tu fais du hip-hop, non ?» Jesse était professeur de hip-hop dans un club de gym à Denfert-Rochereau. Il m'avait remarqué dès le premier soir. La gym m'avait porté chance l'année précédente, à Prague. Pourquoi ne pas retenter l'expérience à Paris? D'autant que j'étais rentré avec une résolution. Devenir vraiment bon à quelque chose. C'était simple. D'abord, trouver une activité. Ensuite, devenir vraiment bon. J'avais choisi une place au fond, derrière le pilier. Mais Jesse avait réussi à me voir et avait arrêté son cours afin que je puisse répéter le mouvement tout seul. Puis il avait dit qu'il ne fallait pas que je me décourage, mais que j'allais devoir fournir des efforts sur 2 points, la coordination des gestes et le rythme. Sur le moment, ça m'avait rassuré. Ça signifiait que je l'avais satisfait sur les autres points. Mais en rentrant chez moi, je n'ai pas réussi à penser à d'autres points. Au 2e cours, pendant l'échauffement, Jesse s'est assis sur mon dos. J'entendais les muscles de mes cuisses se déchirer. Mais il m'a certifié que non, je n'avais pas mal. c'était que je n'expirais pas assez fort par le nez. Ensuite, il n'était laissé s'asseoir sur le dos de personne d'autre. J'ai marché comme un cow-boy les 5 jours suivants, et certains amis, notamment homosexuels, ont utilisé d'autres métaphores que celle du cow-boy quand ils me voyaient arriver. Une autre fois, Jessie m'a fait danser seule devant le groupe. J'étais timide, mais un peu flatté. Eh bien ça, vous avez vu, c'est exactement ce que je ne veux pas que vous fassiez. Je n'ai aucune idée du cheminement qui m'a amené à penser que le hip-hop était mon talent caché. C'est arrivé lorsque j'étais sur le stepper au premier étage du club de gym. Le fait qu'à cet instant, mon sang irriguait davantage mes jambes que mon cerveau est sans doute à considérer. J'étais sur le stepper, sur la mezzanine, et je me moquais des élèves du cours de hip-hop en bas. C'était les débuts de la télé-réalité. On avait l'impression qu'ils étaient tous candidats. Ils portaient leur tenue de casting, même des débardeurs moulants pour les filles et les garçons, et des pantalons larges, retroussés au-dessus des chevilles, avec toutes sortes de lanières paramilitaires qui claquaient par terre au moment les plus intenses de la choré. La seconde d'après, j'étais en train de passer en revue les pantalons de mon propre placard, déçu qu'aucun n'ait de lanières, ni même de franges. C'est le propre des révélations, ça ne s'explique pas. Quand j'ai annoncé à Claire que j'allais commencer des cours de hip-hop, elle m'a demandé si j'allais apprendre le mouvement à l'envers où on fait des tours sur la tête. Hélène et Vincent m'ont posé la même question. Pour ne pas les décevoir, je leur ai répondu que ça viendrait peut-être, avec le temps. Je n'osais pas leur dire que, pour imaginer mon cours de hip-hop, c'était en Britney Spears qu'il fallait me visualiser. Au 6e cours, Jessie est venue me voir pendant qu'on travaillait un passage où il fallait enchaîner une fausse gifle et un coup de rein. Il m'a dit que c'était pas trop mal, je progressais. Mais que la prochaine étape pour moi serait de ne plus confondre le hip-hop et la rumba. Matt, mon ami du hip-hop, ne comprenait pas comment je pouvais me laisser insulter. Et je n'arrivais pas à lui expliquer qu'il ne s'agissait pas d'insultes, mais d'encouragements. Des encouragements que Jessie ne donnait à aucun autre élève. J'avais de la chance, j'étais privilégié. La semaine suivante, Jessie a arrêté la musique et a demandé l'aide du groupe pour me conseiller. Il m'a dit de faire des cercles avec mes deux avant-bras, sans bouger mes coudes, pour voir si j'y arrivais bien. Cindy, est-ce que tu trouves que Thomas sait bien faire des ronds avec ses bras ? Cindy, embarrassée, a dit que non, pas tout à fait. Et toi, Matt, tu penses quoi ? Matt a répondu que chacun avait sa morphologie. Ok, et toi, Myla Wong ? Quand tout le monde a donné son avis, le cours a repris. Et je me suis promis de travailler davantage les cercles avec mes bras. Matt disait que c'est une forme de harcèlement. Mais moi, je savais que Jessie voulait juste m'aider à devenir vraiment bon. Après une demi-saison de hip-hop, Thomas, je voulais faire le bilan avec toi. J'étais un peu anxieux, mais confiant en mes progrès. Au début de l'année, j'arrivais à peine à maîtriser le rythme en 1, 2, 3, 4. Maintenant, j'étais à l'aise sur des motifs plus sophistiqués, tels que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je t'ai déjà parlé de l'échelle du hip-hop ? A demandé Jessie. Non, jamais, j'ai répondu. Il faut que tu imagines un axe vertical. Jessie a écarté ses mains aux extrémités d'un axe imaginaire. Ça, tu vois, c'est l'échelle du hip-hop. Avec la main qui marquait le haut de l'échelle du hip-hop, il a fait plusieurs allers-retours entre le top niveau de l'échelle du hip-hop et le milieu de l'échelle du hip-hop, pour que je visualise bien. Donc tu vois, ça, c'est le top niveau de l'échelle du hip-hop. Et ça, c'est le milieu de l'échelle du hip-hop. Le top, le milieu et le bas. Grâce à Jessie, je voyais bien. Le top niveau, c'est vraiment le top. C'est le niveau des pros. C'est là où je suis, moi. Il a remué la main du haut, celle du top niveau. Donc en dessous, là, il y a le milieu. Il a encore bougé ses mains. Et toi, Thomas, tu es là. J'étais en dessous du quart. Probablement au 5e de l'échelle du hip-hop. Tu as beaucoup progressé, je suis content de toi. En rentrant chez moi, j'ai dessiné l'échelle du hip-hop dans mon agenda. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de Mike, le premier depuis qu'on s'était séparés. C'était un mail collectif, écrit depuis un cybercafé, dans une région reculée de la Turquie, près de la Géorgie, avec plein de caractères étrangers qui n'existaient pas sur mon clavier. La même semaine, j'ai reçu un autre mail collectif, de Matt, mon ami du hip-hop. C'était ironique. Matt aussi venait d'arriver en Turquie. Il avait décidé de voyager en Europe de l'Est tout l'été, tout seul, et de remonter progressivement jusqu'à Paris. Mike, Avant d'arriver à Erzurum, j'ai passé un peu de temps.